n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle et bonjour à toutes et à tous.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, début octobre est sorti un livre passionnant aux éditions Anna Moza, Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité. Alors c'est un livre d'histoire écrit par Sarah Rey, mais il propose néanmoins toute une réflexion philosophique sur les larmes à partir des stoïciens notamment. Et il m'a amené à me demander, et les philosophes alors, que disent-ils de leur côté sur les larmes ? Qui en a parlé ? Comment ? Quelle place leur accorde-t-il ? Les larmes sont-elles définitivement la marque d'un moment de faiblesse qu'il s'agit de stopper ? Ou, connaissant l'amour des philosophes pour le paradoxe, ont-elles en fait une puissance qu'il s'agit d'exploiter ?
Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, all of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens.
Début 2016, souvenez-vous, Barack Obama était encore président des États-Unis et évoquant les vies perdues de ses enfants lors de fusillades, quelques larmes avaient alors interrompu son discours. Grand moment d'émotion, c'était aussi un grand moment politique et c'est bien par cette ambivalence des larmes entre passivité et stratégie, entre intimité et publicité, que Sarah Rey ouvre son livre donc sur le pouvoir de pleurer. Voici alors la question, que disent ces larmes, ce liquide en surplus, éphémère, futile, qu'il s'agit d'écraser sur ses joues, mais que l'on ne peut plus contenir. Chagrin irréfléchi qu'il s'agit de ménager selon Sénèque, les larmes auraient-elles en fait plus qu'une signification, une efficace, un pouvoir ? Et alors lequel ? Eh bien comme le rappelle Sarah Rey, selon les philosophes antiques, il y a une fonctionnalité des larmes, prouver son sens de la justice. Et Sénèque dit ainsi qu'il ne faut pas entièrement les arrêter. Mais se servir des larmes, n'est-ce pas aussi les trahir ? Trahir leur pure spontanéité, leur pure inutilité, la pureté en fait tout simplement de leur intention. Les larmes peuvent-elles être des armes ? C'est au fond la question et celle que pose pour sa part le philosophe Georges Didier Huberman à partir du film d'Eisenstein de 1925, Le cuirassé Potemkin. Film qui montre, selon son analyse, je cite, « comment un peuple s'émeut d'une mort » au point de passer à l'émeute. Et de fait, à côté de cette perspective antique et stoïque des larmes, trois essais récents ont réhabilité les larmes tout en les rendant à leur véritable sens, c'est-à-dire à leur pathos. Alors il y a d'abord eu Catherine Chalier avec son traité des larmes sur la fragilité divine, puis Michael Fossel que l'on avait entendu à ce micro des chemins dans le temps de la consolation avec sa quête des larmes de Saint-Augustin, et donc Georges Didier Huberman dans « Peuple en larmes, peuple en armes ». Comment donc des larmes peuvent-elles être des armes sans non plus être des moyens, sans être non plus instrumentalisées, mais tout en étant rendues à leur pathos essentiel ? C'est le problème que posent ces essais et qui se résout en fait dans l'idée de communauté. Car qu'est-ce qui peut rassembler un peuple ? Eh bien pas seulement une langue, un territoire ou des valeurs, mais aussi des émotions. Les larmes n'agissent pas seules mais en contexte, lorsqu'elles sont vues, comprises, partagées. Et en ce sens, les larmes ne sont pas des armes, un pouvoir, mais bien un impouvoir qui rassemble et unit. Mais qu'il s'agisse d'une union grâce à un geste de consolation, grâce à Dieu, ou encore par le passage de l'émotion à la motion, c'est-à-dire au mouvement, peut-on vraiment dépasser ce passé des larmes ?
We can talk about your child.
Our child.
Thank you.
And will you be happy, Charlotte?
Oh, Jerry, don't let us ask for the moon. We have the stars.
Dans ce panorama sur les larmes des philosophes, on ne peut pas passer à côté de deux philosophes majeurs, Émile Cioran, à qui l'on doit ses aphorismes « Des larmes et des saints », et puis ça va vous plaire, Adèle, à côté de Stanley Cavell. qui, à partir de quatre mélodrames dont Une femme cherche son destin, dont on vient d'entendre un extrait, dessine une protestation des larmes. Et bien, avec Cioran et Cavell, ce qui est intéressant, c'est que les larmes ne sont ni un pouvoir, ni un impouvoir, mais un accès, une ouverture. Alors certes à une intimité, comme avec Barack Obama qui se livre devant nous, certes à l'autre et à une communauté, comme avec le film d'Eisenstein, mais aussi à la connaissance. Mais alors comment? Pourquoi les larmes ne sont-elles pas qu'un mur, un profond mystère dont on ne sait pas la cause et le remède, mais aussi une brèche? Eh bien, c'est que pour Cavell, la femme inconnue, celle qui pleure, c'est aussi celle qui se montre et que l'on veut sauver. Et que pour Cioran, et dit en un seul aphorisme, c'est seulement à travers les larmes que nous accédons à la connaissance et que nous comprenons comment on peut devenir sain après avoir été un homme.
Vous nous donnez envie de pleurer, Géraldine, mais dans le bon sens du terme.
De joie.
De joie, de contentement. Merci, merci pour ces réflexions. Merci d'avoir parlé de Cavell. Et donc, rappelez-nous le titre du livre que vous citiez au début de votre chronique.
Oui, et qui m'a donné envie du coup de parler des larmes. C'est l'excellent livre de Sarah Ray, Les larmes de Rome. C'est paru aux éditions Anamosa dans un livre tout à fait agréable à lire. Il faut quand même signaler l'édition. Elle est très jolie, très agréable.
Merci, Géraldine. C'est signalé. Et votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.